Vous êtes bien sur Annie Morty sur Studio Z.
Et ben voilà, on va rentrer dans le cœur de l'émission un peu de l'après-midi, puisqu'on va parler du projet mené avec les deux classes au sein du cours de français d'Elisabeth, qui pour l'occasion nous a retrouvés. Et on a un nouvel invité, Benjamin Carotret. Bonjour à toi déjà.
Bonjour à tout le monde, ça va ?
Ça va, ça va. Jusqu'ici, l'après-midi se passe bien. Là, on est déjà en direct depuis une heure et j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà.
Tu as des très bons interlocuteurs en plus. Hein.
Ouais,
je les ai entendus tout à l'heure dans la voiture.
Hein. Mais moi, j'ai été bluffé puisque sur le temps de préparation du projet, je les ai eu un petit peu en répétition. Et que ce soit à la technique ou que ce soit en plateau, je les trouve très à l'aise, super spontanés. Ils ne sont pas le nez à leurs feuilles et ils ont des choses intéressantes à dire. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, tu es en plateau aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton rôle et ton implication dans le projet avec Elisabeth. Alors, avant qu'on aille plus loin, est-ce que déjà tu peux te présenter ?
Alors, moi, je m'appelle donc Benjamin Carotret, je suis comédien, metteur en scène aussi, et ça va faire 3 ou 4 ans que je travaille avec Elisabeth, grâce à Elisabeth, voilà, sur différents projets. Cette année, c'était un peu particulier, l'idée, c'était de faire un travail de lecture à voix haute, voilà. Elisabeth parlera mieux que moi des choix des œuvres avec Cyclique, voilà, mais l'idée, c'était, avec l'aide d'un comédien, comment on travaille un texte pour se faire comprendre lorsqu'on est en discours, par exemple, ça, on pense souvent aux hommes politiques, mais ou alors quand on veut raconter une histoire et que nous n'avons que la voix. Voilà. Alors tu sais très bien de quoi je parle, oui, j'imagine.
Mais parce qu'on a travaillé un peu aussi ensemble sur le projet, l'objectif.
Absolument, ouais. Alors transmettre des émotions, c'est pas évident, hein, uniquement avec la voix. Donc on a eu quelques petites séances où j'ai essayé d'apporter modestement la technique, c'est-à-dire un petit peu comme un musicien, c'est-à-dire à quel moment on respire, à quel moment on ferme le sens d'une phrase. J'aime bien faire beaucoup de similitudes avec les musiciens parce que ça parle plus aux gens. C'est-à-dire que quand on parle de forte, piano, tout le monde comprend quand c'est fort ou quand c'est voilà. Et on a un petit peu la même technique en tant que comédien. Surtout lorsqu'on fait une lecture à voix haute. Donc voilà le boulot que j'avais cette année.
D'accord. Alors on peut peut-être parler des ouvrages en question, Elisabeth. Alors est-ce que tu
si je peux me permettre, ouais, un mot sur Cyclique avant de commencer, parce que
on allait y arriver, ouais.
Je suis pas sûre que tout le monde connaisse Cyclique et je pense que c'est une structure qui gagne vraiment à être connue pour pouvoir faire partager en fait la lecture aux élèves en établissement scolaire. Donc Cyclique, hein, c'est l'agence régionale en fait du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique. Bon, je me suis fait une petite note parce que j'ai toujours un petit peu de difficulté à retenir le déroulé du sigle. Et ils sont situés à Château-Renaud et en fait donc ils ont un dispositif pour la promotion de la littérature contemporaine, qui est le dispositif LALA, quoi, en fait, et qui permet justement de permettre aux élèves d'avoir une approche avec des œuvres de notre époque et donc de rencontrer aussi des auteurs.
D'accord, oui, l'idée c'est d'amener la littérature aux élèves en passant aussi par la rencontre.
Tout à fait.
Et du coup c'est ce qui s'est passé. On entendra un peu le résultat de la rencontre avec un des auteurs.
C'est ça.
Mais avant je voudrais qu'on parle un petit peu des ouvrages.
Oui.
Donc il y avait 3 livres, c'est ça ? Tu as fait découvrir 3 livres aux classes cette année.
Oui.
Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ?
Oui, alors la découverte s'est faite justement grâce à l'intermédiaire de Benjamin qui a travaillé la lecture à voix haute avec les classes, notamment donc un récit poétique intitulé « Jeu d'un accident ou d'amour » de Loïc Demey. Et voilà, c'est un récit relativement court et qui permettait justement une approche, une première approche en tout cas sur une séance. Et pour les élèves, du coup, c'était intéressant d'avoir accès à une histoire complète comme ça sur l'ensemble d'une séance et de pouvoir en échanger ensemble, ce qui a été le cas, quoi, avec la présence de Benjamin qui a travaillé avec eux sur ce texte-là, quoi.
Elisabeth parle de, surtout de cette œuvre-là et non pas des deux autres, c'est que j'ai eu un véritable coup de cœur, mais comme il m'en arrive assez rarement, alors j'ai pas envie de spoiler un petit peu ce que vont dire les élèves, mais en gros, pour faire simple, c'est un auteur qui est professeur de sport aussi, voilà, qui doit avoir la quarantaine, je crois, et qui a écrit toute une histoire assez banale d'une rencontre entre un homme et une femme, mais sans mettre de verbe dans les phrases. Il n'y a aucun verbe dans toutes les phrases, et c'est d'une puissance, je trouve, extraordinaire. C'est vraiment très, très beau, et du coup, ça nous donne des images un peu coup de poing, comme ça. Ça se lit très vite, ça se lit en une demi-heure maximum, quoi. Et pourtant, je lis quand même beaucoup. Alors, on va dire très peu de romans, mais étant donné que je suis comédien, je lis beaucoup de pièces de théâtre et tout ça, et de la poésie. Et il est vrai que c'est très compliqué de faire entendre la poésie contemporaine, les auteurs contemporains, comment se faire connaître, comment se faire entendre. Bravo à Cyclique de nous faire connaître de tels auteurs. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur là-dessus, et je me suis dit, c'est obligé que ça parle aux jeunes, dû à l'histoire notamment, c'est-à-dire une histoire d'amour, voilà. Et de se dire, tiens, on entend beaucoup de jeunes apprécier grandement le rap, le slam. Je ne sais pas si cet auteur le connaît, mais en tout cas, le jeu, l'amour des mots, le fait de jouer avec les mots est absolument dans toute l'œuvre. Et ça, c'est super. Et c'est sans prétention.
D'accord.
Ouais, tout à fait.
Alors du coup, ça, c'est le premier ouvrage. C'est c'est avec lequel tu t'es pas mal appuyé avec les élèves. Et d'ailleurs, on a eu des résultats assez intéressants qu'on écoutera tout à l'heure. Moi, je veux aussi qu'on parle aussi du roman en question,
oui.
Tropique de la violence, puisqu'il y a eu un dispositif un peu particulier avec ce livre.
Oui, puisqu'il y a eu cette rencontre avec l'auteur, Natacha Pana. Donc le roman, oui, voilà, Tropique de la violence, comme tu l'indiquais. La rencontre s'est faite avec chacune des deux classes de première, bac professionnel, puisqu'il y avait deux classes qui étaient concernées par ce dispositif. Voilà, donc les élèves étaient assez intimidés, ont posé quelques questions. Voilà, je dirais que l'échange s'est fait de manière plus spontanée, peut-être avec une des deux classes, parce qu'ils étaient moins nombreux. Et pour eux, en fait, ils se sont rendus compte que c'était quand même relativement simple et possible de pouvoir échanger avec un auteur sur tout type de questions qu'ils avaient envie de lui poser.
Oui, ça a permis de démystifier un petit peu la figure de l'auteur.
C'est ça.
Qu'on imagine hors d'atteinte, quoi.
C'est ça.
Ils sont pas tous morts, hein. C'est incroyable. On a toujours les jeunes ont toujours l'impression que tous les auteurs sont morts. Non, je vous jure qu'il y a des auteurs vivants.
Il y a encore des écrivains vivants.
Très jeunes en plus.
Et du coup, le troisième ouvrage, et puis après on reviendra à Tropique de la violence, puisque du coup on va écouter le résultat de la rencontre.
Oui.
Le troisième ouvrage qui est une bande dessinée.
Oui. Alors là, l'avis des élèves était plus partagé, puisque bon, voilà, il s'agissait d'une bande dessinée, mais sous un format moins conventionnel que celui à travers lequel on attend habituellement une bande dessinée. C'est plutôt un format livre et avec un graphisme qui pouvait être déroutant, quoi, pour un certain nombre d'élèves, puisque c'est un graphisme en noir et blanc. Voilà. Et donc, j'ai pas donné le titre encore. Il s'agit de Joker, de Benjamin Adam. Voilà, qui est une bande dessinée sous forme de récit policier, quoi. Voilà, le titre venant du nom du personnage principal de la bande dessinée, qui est un petit garçon Joker, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un ouvrage que j'ai trouvé moi très inventif dans la mise en scène, dans la présentation, la présentation graphique. Avec des pages du coup nominatives quelque part, une page en chapitre.
Oui.
On sent une tradition même du comic strip où on a presque une petite histoire sur une page ou deux, avec un personnage principal à chaque fois.
Tout se tient exactement.
Il y a beaucoup d'interactions au final.
L'histoire avance de cette manière-là à travers une présentation des différents personnages. et de la place en fait qu'ils vont occuper dans cette intrigue policière quoi.
Et ben du coup on va entendre un petit peu une présentation. Les élèves aussi nous présentent. Donc voilà, le déroulement un petit peu de la suite, c'est on va écouter un petit peu différentes présentations et puis on va aussi entendre les œuvres par la voix des élèves. Et donc du coup on va commencer tout de suite avec la présentation donc de Tropique de la violence. Donc Natacha Apana, et de l'interview que vous avez réalisée avec elle à l'occasion de la rencontre ici, c'était quoi, en novembre, octobre ?
C'était au mois de novembre.
C'était au mois de novembre,
voilà. Elle a voulu te coincer là.
Non, mais j'aime la précision. Donc je vous propose qu'on écoute un petit peu l'interview, la présentation et l'interview, et puis on revient en plateau pour écouter, avant d'écouter les lectures.
Natacha Apana est une écrivaine de 43 ans d'origine maorée. Elle est auteure de 7 livres. Elle est aussi journaliste. Elle est brune, métisse, d'assez petite taille, mince. Elle est posée, parle très calmement et prend le temps de réfléchir avant de parler.
Alors nous avons rencontré l'auteur Natacha Apana le 20 novembre 2017 durant 2 heures, l'après-midi dans la salle de réunion du lycée horticole de Blois.
Nous étions 32 élèves avec notre professeur de français. L'auteur était accompagné d'une représentante de Cyclic, un organisme qui contribue à la promotion des auteurs contemporains.
Parmi les personnels de l'établissement, notre documentaliste Madame Blot est venue assister à la rencontre. D'autre part, des jeunes de l'accueil de jour Volteface nous avaient rejoints avec une personne de leurs éducateurs spécialisés.
Une journaliste de la Nouvelle République et un photographe ont suivi la rencontre qui a démarré par une brève présentation. Et ensuite, nous lui avons posé des questions.
Certaines portaient sur les personnages de son dernier roman et d'autres sur l'écriture de livre et sa conception.
Tropique de la violence est un livre qui parle de violence, de crimes et de meurtres. Cette histoire se passe à Mayotte. Dans ce livre, elle montre le vrai visage de Mayotte, au contraire des photos touristiques.
Il a été édité en 2016 et est apparu dans librairie le 21 septembre. L'histoire du livre est basée sur des faits réels. Marie est en mal d'enfant, ce qui lui a aussi coûté son couple, lorsqu'un jour, une femme lui confie son bébé. « Il a un œil marron et l'autre vert, donc c'est le diable. Il porte malheur, lui dit-elle, avant de s'enfuir. »
Marie l'a élevé comme un blanc. Mais à l'adolescence, Moïse cherche à savoir d'où il vient et pourquoi sa mère l'a abandonné. Mais un jour, il perd sa mère adoptive et part en dépression, fréquentant les mauvaises personnes. Seul, il essaye de survivre dans la Gaza, le plus grand bidonville de Mayotte.
Bonjour Madame Apana, merci de nous accorder cette interview. Je m'appelle Lilou, je suis actuellement en première bac pro au lycée horticole de Blois. Mes camarades et moi souhaiterions vous poser quelques questions. Nous allons principalement parler de votre dernier roman, Tropique de la violence. Nous allons commencer si vous êtes prête. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Natacha Apana, je suis écrivain, je suis née à l'île Maurice et j'ai fait des études de lettres et de journalisme. Je vis en France depuis assez longtemps, depuis 20 ans maintenant, et j'ai publié 7 livres, dont 6 romans, et je pense qu'on va parler du dernier qui s'appelle « Tropique de la violence ».
Depuis quand écrivez-vous ?
J'écris depuis que je suis adolescente, depuis l'âge de 13 ans, avec des petites histoires, mais toujours de la fiction. Je n'ai jamais beaucoup écrit sur moi, j'ai toujours inventé des petites histoires, je dirais voilà, depuis 13-14 ans.
Comment êtes-vous devenue écrivain ?
Je ne sais pas si on devient, s'il y a un moment précis où on devient écrivain et l'instant d'après on ne l'était pas. Je crois qu'on écrit. On écrit jusqu'à ce qu'un jour on décide que bah, ce travail-là, précisément, peut-être, il sera édité. Et moi, je me considère, écrivain. Il y a des jours où vraiment je me considère écrivain et des jours non. Je pense que quand je suis en pleine écriture de quelque chose et que ça remplit ma vie, à ce moment, je me considère. Comment je suis devenue écrivain ? Je pense que c'est en écrivant des livres et en ayant l'impression, en sachant au fond de moi que c'est la chose la plus passionnante et la plus merveilleuse que j'ai trouvé à faire de ma vie.
Avez-vous un rituel d'écriture ?
Non, je n'ai pas vraiment de rituel d'écriture. Je sais que j'écris en général en silence, chez moi. Voilà, j'ai pas vraiment de rituel d'écriture.
Bonjour, je suis Fanny et je vais poursuivre cette interview avec vous. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que représente l'écriture pour vous.
L'écriture représente pour moi une façon de m'exprimer. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée de m'exprimer, la meilleure façon que j'ai trouvée d'être moi-même et de vivre au mieux ma vie.
Dans quel but avez-vous écrit Tropique de la violence ?
Je l'ai d'abord écrit pour comprendre ce qui se passe dans ce pays qui est comme ça, pris en tenaille par les questions identitaires, les questions écologiques, les questions de migration. Je l'ai écrit pour savoir comment on fait quand on vit là-bas, quand on a des envies, des désirs, des rêves comme tout le monde, comme vous, comme moi. Voilà pourquoi au départ j'ai écrit ça.
Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce livre ?
Ma source d'inspiration au départ a été vraiment une expérience personnelle puisque j'ai vécu 2 années à Mayotte et c'était au quotidien cette source d'inspiration. Je ne savais pas que ça allait me servir pour un roman, je pensais que je n'allais pas pouvoir écrire sur ce texte-là, mais finalement c'était ça, c'était d'abord cette expérience-là, c'est d'avoir vu, d'avoir vécu, d'avoir senti, d'avoir imaginé ce que c'est qu'une vie là-bas en été. Plus tard, en ayant eu comme ça 2 années de longs mois dans ce pays.
Pourquoi ce titre ?
Oh, parce qu'il se passe sous les tropiques et que c'est une histoire où il y a un peu de la micro-violence et de l'hyper-violence partout. Je voulais un titre qui rappelle la situation géographique de Mayotte, qui se trouve sous les tropiques, mais un titre qui ne leurre pas le lecteur non plus. Ce n'est pas un livre où on va trouver des cartes postales, c'est pas un livre où on va trouver des palmiers, du sable blanc, c'est un livre où on va trouver... la réalité de la vie humaine.
Comment s'est passée l'écriture du livre par rapport à vos livres précédents ?
C'est une écriture qui m'a pris quelques temps puisque j'ai commencé par un projet un petit peu plus personnel, un petit peu plus intimiste. Je voulais simplement écrire l'histoire de Marie, qui est cette infirmière qui arrive à Mayotte. Ensuite, après avoir écrit pendant de très longs mois cette histoire-là, et après avoir fait quelques centaines de pages, je suis retournée à Mayotte et j'ai décidé de tout casser, et de faire cette polyphonie, c'est-à-dire d'avoir une sorte de textes où les voix narratives se donnent comme ça, se font écho et parlent à tour de rôle.
Entre votre premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or et Tropique de la Violence, sentez-vous une évolution ?
Oui, je crois qu'il y a une évolution. C'est déjà d'abord l'évolution de l'âge. Hein. J'étais très jeune quand j'ai écrit... très jeune, j'étais plus jeune en tout cas quand j'ai écrit Les Rochers de Poudre d'Or. J'avais moins d'expérience. Et je crois pour écrire, il faut continuer. C'est une pratique d'abord l'écriture. C'est pas quelque chose qu'on attend en se disant je n'ai pas d'idée, je ne vais pas écrire. Il faut écrire régulièrement, essayer en tout cas d'écrire régulièrement. Et ça, c'est des choses que je ne savais pas quand j'avais écrit Les Rochers de Poudre d'Or. Je pensais que les histoires me viendraient plus facilement, sans grand effort. Malheureusement, non, c'est pas le cas.
Bonjour, je m'appelle Réane. À mon tour, j'aimerais vous poser quelques questions. Notamment, avez-vous voulu faire passer un message, réveiller des consciences, ou simplement raconter une histoire comme une autre ?
Je savais qu'avec ce livre-là, je n'allais pas raconter une histoire comme une autre. Je crois qu'aucun auteur ne veut raconter une histoire comme une autre. Il veut raconter ce que c'est la vie, mais il veut que son livre ne soit pas comme les autres. Je ne crois pas que j'ai écrit ce livre en me disant « voilà, j'ai un message à faire passer » ou « j'ai quelque chose à... je voudrais que les gens le prennent comme ça ». Moi non, je voulais vraiment dire... Je voulais simplement montrer ce qui se passait dans la tête d'un gamin de 13 ans, ce qui se passait dans la tête de cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Je voulais montrer ce qui se passe quand on vit sur une île et qu'on a l'impression d'être dans un étau. C'est ça que je voulais faire. Évidemment, dire aussi qu'il y a des enfants de 13 ans qui n'ont pas de toit. Et que ça se passe dans une île française n'est pas anodin non plus.
Êtes-vous sensible à la critique littéraire ?
Oui, parce que ça fait partie de notre métier. Dire que ça ne nous touche pas, en tout cas moi ça me touche. Quand il y a une bonne critique, ça me fait plaisir. Quand il y en a une moins bonne, bon bah voilà, c'est comme ça. Mais il faut l'accepter, c'est la règle du jeu.
Merci de nous avoir accordé cet entretien que nous aurons l'occasion de diffuser pour les auditeurs de notre radio le jour des portes ouvertes de notre lycée.
Et ben voilà, on y est, jour des portes ouvertes du lycée. Merci à Natacha Apana pour sa disponibilité. En effet, moi je la trouve, comme les élèves ont dit, très calme, posée, très, très à l'écoute et disponible pour eux. Donc ça, c'était vraiment une belle rencontre, je pense. Hein. Je vous propose qu'on... Oui, tu es en direct, Elisabeth.
Ah, d'accord. Je ne savais pas si tu me posais question.
Je vous propose qu'on continue, qu'on écoute un petit peu le résultat du travail avec les élèves, et notamment en particulier avec ce roman.
C'est juste rappeler que forcément, ils étaient obligés de le faire.
Ouais.
Et ça, c'est quand même bien de le savoir. On les a obligés à lire avec toutes les difficultés que cela comporte, c'est-à-dire il y a la timidité. Il y a des problématiques des fois de lecture, voilà. Et tout le monde, alors ils n'ont pas eu vraiment le choix, mais tout le monde s'est quand même lancé. Et donc ça, c'était intéressant. Donc lancer soit lecture de l'œuvre, soit présentation. Voilà, ils font soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pour ça que tout le monde n'a pas pu passer sur une œuvre, par exemple, de lire un extrait d'une œuvre.
Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on était là tous les deux le jour où on a enregistré les voix,
oui.
Et c'est vrai que malgré cette obligation, quelque part, ils se sont quand même lancés. Ils ont été au bout du challenge, du défi qu'on leur a lancé aussi, quelque part.
Oui, puis au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un jeu, il faut s'amuser, c'est-à-dire qu'il faut désacraliser tout cela, même si c'est un exercice pour eux et qu'ils sont notés. Ils sont notés, je crois, un petit peu. Il y a une partie notée
Oui, il y a une partie, partie notée, qu'on va dire. On voilà. ne va pas tout noter non plus.
En tout cas, évaluer, quoi.
Oui.
Et du coup, on prend aussi en considération les difficultés de chacun. Et ça, c'est important de le signaler. Il y a des gros défis personnels, des fois.
D'accord. Je vous propose qu'on écoute le résultat, en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'en ai profité. Et pour essayer d'un petit peu d'amener du lien entre les différentes lectures, je me suis permis de mettre en son le résultat. Et donc, du coup, on va en profiter pour écouter un peu quelques musiques qui sont originaires de Mayotte. C'était l'objectif. Aussi de faire quelque chose qui ait un peu de sens, un peu de cohérence. Donc je vous propose qu'on écoute ça et puis on revient avec les lycéens en plateau pour parler un petit peu de leur agenda et notamment des choix culturels un petit peu qu'ils ont fait cette année sur l'émission.
Je l'entends se réveiller. Peut-être qu'aujourd'hui, il ira au collège. Il ne portera pas cette casquette qui lui barre à moitié le visage. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne traînera pas avec ce garçon sale qu'il a rencontré il y a quelque temps. Peut-être qu'aujourd'hui, il portera fièrement son œil vert comme on porte un talisman. Peut-être qu'aujourd'hui, il m'appellera à nouveau maman. Je pose sur le comptoir de la cuisine son bol préféré sur lequel est marqué son prénom. La douleur est un poignard chauffé à blanc qui fouille ma tête. J'ouvre la boîte hermétique où je garde les céréales. J'entends Moïse s'approcher dans le couloir et dehors tout à coup, je vois ma mère. Elle se tient près de la fenêtre et me regarde avec des yeux infiniment tristes. Je comprends instantanément. Il faut me croire de là où je vous parle. Les mensonges ne servent à rien. Je n'ai pas senti l'artère éclater dans mon cerveau. Je n'ai pas senti le dernier spasme de mon cœur. Il faut me croire quand je dis que je n'ai pas eu mal quand ma tête a heurté le sol et que mon bras s'est tordu sous mon corps dans un angle bizarre. Il faut me croire quand je dis que je suis restée debout à côté de moi-même et que le pire reste à venir.
Avec dextérité, la jeune fille sort le bébé de son emmaillotage et je réalise que celui-ci est bandé comme une momie. Peut-être est-il brûlé ? Elle défait les bandelettes qui recouvrent même une partie de son visage. C'est un bébé de quelques jours à peine. Il respire, il n'est pas brûlé, il a l'air parfait. Il est parfait. Je commence à parler, mais la mère pose le doigt sur ses lèvres en faisant « Chut ». Elle ne souhaite pas qu'on le réveille. Elle me montre l'œil du bébé. Je ne comprends pas. Je ne vois rien. Le bébé dort. Elle s'impatiente. Elle me montre ses deux yeux, puis les miens, puis ceux du bébé. « Ah, votre bébé est aveugle ?» Elle secoue vigoureusement la tête et soudain l'enfant se met à gigoter. Il fait claquer ses lèvres une fois, deux fois, comme s'il cherchait la tétée. Et la jeune femme meut le temps comme on tendrait quelque chose qui vous fait peur et vous dégoûte à la fois. Je ne sais pas pourquoi, je le prends ce bébé qu'on me donne. Et celui-ci s'étire dans mes bras et c'est merveilleux ce petit corps chaud qui se lève contre moi. Le petit ouvre les yeux. La mère recule contre le lit. Et moi, ce que je vois est incroyable. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Juste appris le terme exact au cours de mes études. Le bébé a un œil noir et un œil vert. Il est atteint d'hétérochromie, une anomalie génétique absolument bénigne. Le vert de son œil est comme le vert des feuilles de l'arbre à pain. Non, du manguier. Oh, je ne sais plus. C'est ce vert incroyable qu'ont parfois les arbres de ce pays, pendant l'hiver austral. Il me regarde avec ce regard bicolore. Je lui parle, je lui dis « Bonjour joli bébé ». La mère me dit alors en faisant de grands signes vers le petit garçon, lui bébé du djinn, lui portait malheur avec son œil, lui portait malheur.
Bakar fixait le visage du mort. Je ne pouvais pas dire s'il avait peur, s'il se sentait mal ou s'il était triste. Soudain, il a dit « C'est Bruce ?»« Bruce ?»« C'est qui Bruce ?»« C'est le chef de Gaza. »« Merde !» Le vent a sifflé dans les branches et nous nous sommes regardés. Je ne sais pas qui a surnommé ainsi le quartier défavorisé de Kaweni, à la lisière de Mamoudzou, mais il a visé juste. Gaza, c'est un bidonville, c'est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela. C'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert. C'est une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land violent où les bandes de gamins shootés aux chimiques font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio, Gaza, c'est Mayotte, Gaza, c'est la France. J'ai fermé les yeux, peut-être avais-je l'espoir que tout cela ne se révèle un cauchemar. J'ai pensé, voilà, ça va être la guerre à Mayotte.
Nous l'avons rejoint et nous sommes entrés dans Gaza. Je ne sais pas qui a baptisé ce quartier de Kaweni Gaza. Je ne suis pas sûre de savoir où se trouve la vraie ville de Gaza, mais je sais que ce n'est pas bon. Est-ce que si cette personne avait rebaptisé ce quartier avec un nom doux, un nom sans guerre, un nom sans enfants morts, un nom comme Tahiti qui sent les fleurs, un nom comme Washington qui sent les grandes avenues et les gens costume-cravate, un nom comme Californie qui sent le soleil et les filles, est-ce que ça aurait changé le destin et l'esprit des gens ici ? Gaza était en noir et blanc ce soir-là. Le blanc des tuniques, des petits garçons qui allaient à la prière ou rentrer. Le noir des caniveaux dans lequel j'avais peur de basculer. Le blanc des seaux et les bouteilles en plastique alignées près du point d'eau. Le noir des visages et le blanc des yeux. J'ai senti l'odeur du Gaza de Mayotte. Et je sais aujourd'hui, sans même avoir jamais voyagé, que c'est l'odeur de tous les ghettos du monde. L'urine aigre des coins de rue, la vieille merde des caniveaux, le poulet qui grille sur les vieilles barriques de pétrole, l'eau de Cologne et les épices devant les maisons, la sueur fermentée des hommes et des femmes, le moisi du linge mou, et ce bruit incessant qui couvre les pensées, les souvenirs, les rêves, la musique des voitures qui passent fenêtres ouvertes et celles qui dégoulinent des étages des maisons, le muezzin qui appelle à la prière, une télé qui donne la météo, Les cris des enfants qui jouent, les pleurs des bébés qui ont faim et qui ne dorment pas tellement ils ont faim. Et moi, je marchais au milieu de tout ça. Je tenais la laisse de Bosco serrée dans ma paume comme si, sans elle, c'est moi qui allais glisser dans un caniveau noir rempli de je ne sais quoi. Je suivais Bruce qui bougeait comme un danseur, qui passait là, puis tournait ici, puis bifurquait là. Il est rentré dans un garage, il y avait une ampoule jaune sale au plafond, la moitié d'une voiture sur un sol noir. Ça sentait l'essence et le métal. Ça m'a fait grincer des dents. Dans un coin, un homme mangeait un bout de manioc. J'ai entendu ses dents croquer, craquer dans cette racine dure et moi, du haut de mes 14 ans, j'ai eu envie de lui dire « Ça se mange cuit le manioc, il faut le bouillir d'abord. » Il n'a même pas levé les yeux vers nous. Nous sommes ressortis et avons dévalé une ravine. Jamais Bruce ne s'est retourné pour voir où j'en étais. Peut-être qu'il voulait me perdre, mais je n'avais jamais été aussi attentif et agile. Mes pieds se sont enfoncés dans quelque chose de mou, de dégoulinant. C'était le lit de la ravine et ce n'était pas de l'eau qui coulait là. J'ai jeté un coup d'œil à droite à gauche. Il y avait quelques lumières ici et là, un brasero plus bas, des ombres au-dessus des flammes, mais il fallait avancer. Nous étions sur une pente de terre, ça glissait sous mes baskets, ça puait sous mes baskets, une odeur de merde sur moi. J'ai trébuché, un caillou, un poignard. Je l'ai senti rentrer dans le genou, mais comme eux, j'ai fermé ma bouche et j'ai continué à monter. Le bruit s'est calmé, les odeurs du ghetto se sont tassées. Quand je tendais la main, je pouvais toucher des feuilles et des branches. Mon cœur bondissait dans ma poitrine. J'avais peur et j'étais excitée en même temps. Bosco courait à mes côtés, sa laisse jaune s'illuminait dans la nuit. Je grimpais vers le ciel de Gaza, où m'attendait je ne sais quoi, je ne sais qui.
Ça fait même pas une semaine, je suis qui doit si on est mazza tabou chien bas. Bah, j'aime si. Est-ce que mon jatit sur la barre des bois, on se gare, il y a mon gars qui est là, quand même, no retrax, c'est pas la chambre là. Moi, c'est le job, c'est l'homme de l'hou noir, on goa. Cafin, vous la bangle, vous êtes l'hou, ni les morts. Ça part au rambu, le bé, ouais, mis son maman, son gars, les rawan, un gars, y'a un nain. Man, t'as un sa nain, son rack, non, t'as un nest, les moments, si, rack, mou. Fentin, bang, yang, les noirs, les amours. C'est chindi, bé, microphone, n'imti, c'est mon nia, ça, c'est baby. Zola wanti sama hu
Habalin sa ranjwen ka chongo so kiri Habalin sa ranjwen ka vartong sa sidi Habalin sa ranjwen ka Avion, how, cercle flottant
Nagishi barua hao ni le telefon Behun, ma jali Nagishi barua hao ni le telefon Eba sa buso ti
Nagishi barua
Latène m'avait parlé de toi. Il m'avait dit qu'il avait rencontré un musingue noir, mais il croyait que t'étais un Africain. Un vrai de vrai de nègre. Mais de ceux qui sont habillés en pantalon et en chemise et qui parlent français. Pas de ceux qui meurent dans les caniveaux au Rwanda, au Congo ou en Somalie. Il disait que tu le suivais partout comme un chien, que tu lui mettais la main à la poche sans réfléchir et que tu t'appelais Mo. Et que tu avais un œil bizarre. Bizarre ? C'est bien le mot qu'il a utilisé, ce bâtard. Je peux te le dire maintenant. On s'est fait un film, Latène, Rico et moi. On s'est dit qu'on allait t'embarquer, te donner un truc à fumer et ensuite te kidnapper. Et demander du fric à ta mère et à ton père africain qui parlent français et qui vont sûrement bosser dans leur Nissan Qashqai noir aux vitres fumées. On allait te choper à la sortie du collège. Attention à mon cousin, a dit Latène. Mais va te faire foutre avec ton cousin, je lui ai fait. On allait t'enfermer dans la banga, en haut sur la colline, et on t'aurait ligoté bien serré pour que tu bouges pas. Combien tu coûtes toi, Moïse ? C'est ton vrai nom, ça ? Moïse ? Un nom, il faut se faire mal aux lèvres quand on le dit « Moïse ». Tout le monde a un prix. Chaque chose sur Terre a un prix. N'importe quoi, dit le banc là. Il a un prix. Le flic de tout à l'heure, il a un prix. Toi aussi, tu as un prix. Et on s'est dit qu'on va le trouver à ton prix en t'étudiant bien. Latène était dessus et il avait appris que tu vivais seul avec ta mère. Ton prix avait augmenté, mon cher Moïse. Tu étais le chéri de ta maman. Elle avait payé gros sous, gros pognon. Monnaie, monnaie, monnaie. Mais t'es venu à nous, ma petite chérie. T'attendais avec ton chien sur le parking du marché. Comment t'as fait pour avoir un chien aussi laid ? Je sais pas. Et on t'observait depuis un bon bout de temps. On est chez nous ici, c'est notre territoire.
Je m'appelle Moïse, j'ai 15 ans et je suis vivant. Je vois l'embarcadère et j'accélère. Je suis poussé par le souffle de chacal de la meute. Par cette vie de merde que je veux laver, je pense à Marie, je pense à Bosco et à Gatso et à Bascalé, et il me semble qu'ils sont là, à courir avec moi, à m'encourager, à me porter. Je sens le sol changer, ce n'est plus la terre mais le dur du ciment de l'embarcadère sous mes pieds. Je ne vois pas les autres, je ne crains plus ces autres-là, armés de coupe-coupe, de gourdins et de pierres. J'arrive bientôt à la fin mais je n'ai pas peur, ce bleu magnifique, brillant, ce bleu qui peut-être n'existe qu'ici dans cet océan m'appelle. Sans ralentir, je fais alors comme tous les enfants de Mayotte, au moins une fois dans leur vie, je fais décoller mon corps au bout d'un embarcadère, ma poitrine se bombe, mes jambes et mes bras se soulèvent, je plonge dans la rade de Mamoudzou, je fends l'océan de mon corps souple, mon corps vivant, et je ne remonte pas.
Tout le monde t'en parle et mystérieusement tu te crois à l'abri. On te raconte comment cette jolie fille, que tu as vue plusieurs fois dans des soirées, s'est fait attaquer sur une plage. Et parce qu'elle ne voulait pas lâcher son appareil photo, les voleurs lui ont balancé une noix de coco pour l'assommer. Maintenant, la moitié de son joli visage est paralysée. On te parle de ces lieux dans les bois où vivent des clandestins depuis des dizaines d'années. Tu lis des articles à propos des agressions sexuelles d'une extrême violence qui sont commises par de jeunes garçons sous l'emprise de cette nouvelle drogue, le chimique. Et plus tard, quand tu te parles à tes amis de ce que tu as lu, on te révèle même le prénom du mec qui a apporté cette drogue à Mayotte. Et tu dis « putain, c'est chaud ». Mais ça ne t'atteint pas là où ça devrait t'atteindre.
Je voudrais que tu te taises, que tu la fermes, mais ta bouche est close. Et pourtant je t'entends si fort, et tout ce que tu racontes, ça vient direct sur moi, comme la balle dans les bois que tu m'as tiré dessus. Je me demande où est mon corps. Est-il encore là-haut ? Tu m'as abandonné comme tu as abandonné ta mère. Elle pourrissait sur place, ta mère. Elle était bouffée par les rats. Gros comme des chats, et son corps avait gonflé comme un ballon. Et l'odeur, tu te rappelles de l'odeur, hein ? Toi qui parles de Gaza comme tous les blancs parlent de Gaza. Tu parles de la mer, tu parles des poubelles, tu parles de la misère comme tous ces journalistes qui viennent chez nous, comme ils vont au cinéma. Après, ils racontent, ils écrivent des grands mots, comme le plus grand bidonville de Mayotte, comme le dépotoir à ciel ouvert. Toi aussi tu dis, et tu penses pareil.
Et voilà donc le résultat de la lecture du roman Tropique de la violence de Natacha Apana. Et donc d'ailleurs, je voulais féliciter tous les élèves qui ont participé parce que au final, ça donne quelque chose de très 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 tonique, très dynamique. On est vraiment plongé dans l'ambiance du roman et je trouve qu'ils ont fait un très très bon travail avec ça. Et donc voilà, on fait une petite pause sur la question, sur la thématique des lectures. On y reviendra. Après, dans quelques minutes.